La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Nous avons vu lors de notre dernière émission que Jacob avait encore un dernier message prophétique à communiquer au travers de la bénédiction sur ses fils. Il le fait d'ailleurs en deux temps, d'abord sur Joseph et ses fils Ephraïm et Manassé. On a pu voir combien chaque parole était pesée et Jacob prophétise sur le Messie qui vient de manière plutôt énigmatique, il faut en convenir. Mais ce ne sont pas encore là les dernières paroles de Jacob à ses fils.
Effectivement, et c'est peu de dire que chaque mot ou presque a son importance dans la perspective prophétique de la bénédiction du patriarche sur ses fils. Après avoir prononcé une parole sur Ephraïm et Manassé, sur laquelle on s'est penché il y a 15 jours, Jacob revient vers son fils Joseph. Et il dit au verset 21, « Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Alors voilà, une parole moins élégante évidemment, et pourtant, Jacob accorde à son fils Joseph une part supplémentaire qu'il désigne assez étrangement, il faut convenir. Quel peut être ce coin de terre en Canaan que Jacob aurait pris par la force de l'épée? Il s'agit en réalité du lieu appelé Sichem ou Shechem en hébreu. Jacob, pas plus que ses pères d'ailleurs, n'a entrepris de conquérir la terre de Canaan. Et ce sera d'ailleurs l'affaire plus tard de Josué, un fils d'Éphraïm du reste. Par contre, Siméon et Lévi ont bel et bien pris les armes et passé au fil de l'épée la population du clan de Hamor à Shechem, suite à l'affaire de Dina dont on a déjà parlé. Or, ce lieu tient une place particulière dans la révélation prophétique au patriarche. Et il nous faut toujours garder à l'esprit que notre texte, je le pense, dans son entièreté s'inscrit dans une annonce prophétique du Messie. Shechem, Sichem, se trouve mentionné dans plusieurs passages bien connus. Et en Genèse 12, versets 6 et 7, Abraham arrive en Canaan et s'établit en ce lieu, à Sichem. Première étape de ses pérégrinations. Il y construira un autel à l'Éternel, là où l'Éternel lui sera apparu pour lui faire la promesse du pays. Un peu plus loin, en Genèse 33, versets 18 à 20, lors de son retour de chez Laban, Jacob fait étape en ce même lieu, à Sichem, et il y achètera la pièce de terre où il dressera sa tente, tandis qu'il est pourtant le vrai propriétaire du pays, selon la promesse. C'est là que Jacob reconnaît et proclame que l'Éternel est son Dieu. Il y construira lui aussi un autel à l'Éternel. Enfin, un petit peu plus loin encore, en Genèse 37, verset 14, les frères de Joseph y font paître le troupeau de Jacob, et de là, ils vont même enfermer Joseph dans la citerne avant de le vendre aux Ismaélites. En Deutéronome 11, versets 29 à 30, il est indiqué que Sichem se situe à équidistance des monts Garizim et du mont Ébal, entre les deux montagnes de la bénédiction et de la malédiction. En Josué 24, verset 1, Josué convoque le peuple pour rappeler les termes de l'alliance à Sichem, là encore, avant la conquête, alors que la conquête elle-même s'achève. Josué 24, 32, les ossements de Joseph, là, seront enterrés à Sichem. Sichem est donc un lieu chargé d'histoire, celle des premières rencontres et des révélations au patriarche, à l'exception notoire quand même d'Isaac. C'est aussi le lieu des épreuves de toutes sortes et de la souffrance prophétique du Messie Ben Yosef. Jacob donne donc cette ville, ce lieu, à Yosef, Joseph, et à travers lui à Ephraïm. Pourquoi? Parce que c'est le lieu par excellence où Dieu se révèle prophétiquement à propos du Messie qui vient, et il faut impérativement que l'homme chargé de transmettre l'alliance à la génération suivante soit au fait de ce que Dieu veut révéler à son peuple. Si Marpella, la caverne de Marpella, parle par les noms des patriarches qui y sont enterrés en rapport avec la terre de Canaan promise par l'Éternel à son peuple. Sichem parle de la mort et des souffrances du Messie, et il fallait que Yosef, qui préfigure le Mashiach, qui vient, soit associé à ce lieu symbolique en y étant enterré. Un autre aspect du mot Sichem, Shechem, ne manque pas par ailleurs de pertinence. En effet, Shechem signifie également en hébreu « épaule ». Or, une prophétie d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, illustre de manière toute particulière le Messie portant sur son épaule la domination. Al Shechemo, sur son épaule littéralement, et cela quoiqu'il ait porté d'abord le poids des souffrances de son peuple. Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors, si le joug est sur le cou, la charge que l'on porte est toujours sur l'épaule. Le Messie se distingue donc par la charge qu'il a portée sur l'épaule, et ce jusqu'à la croix.
C'est passionnant. Qui aurait pu imaginer le sens prophétique d'un lieu aussi commun et pourtant bien choisi pour y enterrer Joseph. Mais là, on n'a pas encore vu les paroles de Jacob sur ses autres fils.
On va y arriver, on va y arriver. Au chapitre 49, Jacob convoque maintenant la totalité de ses fils pour, nous est-il dit, leur annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Pour le Midrash, l'expression « Aharit Yamim » ne désigne pas là le simple futur des fils de Jacob, comme s'ils voulaient satisfaire leur curiosité quant à leur avenir plus ou moins proche. Non, le Midrash suggère que le futur en question pointe vers les temps messianiques, et pas seulement pour Joseph dans la perspective du Messie. Voyons plutôt. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Alors à vrai dire, plus qu'une bénédiction, qui n'en est pas une d'ailleurs, ce qui est dit de Ruben résonne comme un avertissement et une condamnation de celui qui enfreint le commandement relatif à la transmission d'alliance. Une disposition d'ailleurs qui sera présente durant le règne messianique. Mais voyons plus loin, verset 5. « Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. » Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Plutôt des paroles sévères, hein, s'il en est, et Siméon et Lévi sont les exemples négatifs de la violence et de la vengeance qui n'auront plus de place dans le règne du Messie. Voyons maintenant au verset 8 la parole sur Judas. « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ?» Et surtout là, au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Alors nous allons un peu plus prendre le temps d'examiner cette parole sur Judas. Outre le fait que Judas aura en effet la prééminence sur ses frères par le fait qu'il engendrera la descendance des rois, ici il est en fait allusion au roi Messie qui vient, désigné par les commentateurs juifs par le terme « Shiloh », traduit diversement par le mot « pacificateur » ou « celui qui établit la paix ». Le Baal Haturim, qui est un célèbre commentateur juif du Moyen-Âge, précise que la valeur guématrique de « Yavoh Shiloh », ce qui veut dire « vienne le Shiloh » dans notre verset, et le nombre 358. La même valeur que le mot Mashiach, Messie. Alors, ce n'est certes pas une preuve, mais en tout cas au moins un indice confortant ce que d'autres savaient déjà, et nous avec. Le sceptre est synonyme d'autorité royale et le bâton de commandement celui de l'autorité judiciaire, L'un et l'autre ont en effet été symbolisés par, d'un côté, la descendance des rois, de l'autre, l'autorité souveraine des juges du Sanhédrin. Le symbole de cette autorité suprême étant celle du pouvoir d'appliquer la peine capitale. Même lorsque les rois étrangers ont conquis le pays d'Israël, l'autorité judiciaire est restée cependant entre les mains des Israélites, de même que la possibilité d'appliquer la peine capitale. Et c'est en fait seulement quelques années avant la naissance de Yeshua que les Romains retirent aux Juifs cette autorité. Et dorénavant, les Juifs devront demander l'autorisation au proconsul romain pour appliquer toute peine de mort. C'est ce qui d'ailleurs explique notamment la démarche entreprise par le Sanhédrin vis-à-vis de Yeshua pour le faire juger par Pilate. On estime en général que le retrait de ce pouvoir de décision ultime était une atteinte à l'autorité souveraine dont il est question dans cette prophétie de Jacob adressée à Judas. Le Shiloh devait donc nécessairement venir après cette date, ce qui est le cas de Yeshua. Au verset 10, l'obéissance des peuples sous-entend que le Messie exerce son autorité de manière universelle sur des hommes issus de tous les peuples. Les détails relatifs à l'âne et le petit de l'ânesse attaché à la vigne indiquent la marque de l'humilité de ce Messie en même temps que sa royauté, comme le précise par ailleurs Zacharie 9:9. Enfin, les mentions du vin et du sang du raisin sont en rapport avec la rédemption obtenue par le sacrifice du Messie lui-même, le sang versé.
Qui aurait pu croire que les paroles de Jacob contiennent autant de richesses et un caractère prophétique aussi particulier ?
Oui, en fait, ce qu'il faut garder tout particulièrement à l'esprit, c'est que le caractère prophétique et même messianique de ce passage est confirmé par de nombreux commentateurs juifs. La perspective d'un Messie qui souffre, comme Joseph a pu souffrir d'ailleurs injustement, est une réalité bien comprise par les rabbanim, très tôt d'ailleurs. Et il est vrai qu'en général, il est préféré plutôt mettre l'accent sur le caractère victorieux et glorieux du Messie, fils de Joseph, dont David est le modèle typologique. Ici, dans ce passage, au terme de la vie de Jacob, et alors que Joseph est manifestement le puissant sauveur de toute la famille d'Israël, nous trouvons là comme une convergence d'indices qui concentre dans la personne du Messie la souffrance future du Messie, mais aussi la gloire qui s'ensuivra.
Est-ce que Jacob ou ses fils avaient conscience de ce que nous découvrons dans ces textes ?
Alors, c'est peut-être un peu difficile de l'affirmer, de le dire. Jacob, en dépit d'ailleurs de sa cécité, comme on l'a déjà vu, avait sans doute une idée plus précise du sens futur de ses paroles. Mais pour ses fils, et même peut-être aussi pour Joseph, c'est peut-être moins évident. Et nous commençons nous-mêmes d'ailleurs à seulement percevoir de petits éléments du puzzle messianique qui se dessine. D'autres, notamment des rabbins, ont remarquablement bien placé certaines pièces de ce tableau. D'autres encore s'en sont plutôt largement écartés. Il faut cependant du temps, du recul aussi, et surtout l'éclairage du roi HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour relier nos découvertes au Messie des Évangiles, Yeshua.
Merci Guy. Notre émission touche à sa fin et on poursuivra dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Tous ces textes sont disponibles sur le site du Berger d'Israël, www.lebergerdisraël.org. Au revoir Guy.
Au revoir.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisraël.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.